Flash Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat.
Notre série d'émissions sur les divers livres de la Bible nous conduit à découvrir de nombreuses richesses et aujourd'hui nous allons explorer un livre du Nouveau Testament qui s'appelle l'Épître aux Hébreux. Alors Jacques-Daniel Rochat, quelle est l'orientation de ce livre des Hébreux ?
Alors pour comprendre ce livre, il est nécessaire de se rappeler que tous les premiers chrétiens étaient des Juifs. Je le souligne, tous les premiers chrétiens étaient des Juifs et ce seront les Juifs qui seront les premiers à transporter, apporter le message de l'Évangile, l'histoire de la résurrection de Jésus, la foi chrétienne, dans le monde. Et ce lien entre juifs et chrétiens démontre combien l'antisémitisme, qui a même trouvé un écho dans les églises, est absolument stupide et maléfique.
Donc on peut souligner quelque part là que le christianisme a ses fondements dans le judaïsme. C'est là que tout commence.
Oui, tout à fait. Il faut se rappeler qu'à l'époque des évangiles, les Juifs sont dominés par les Romains. Les Romains sont venus après les Grecs, ils ont occupé le pays. Mais malgré ces pressions, les Hébreux continuent et peuvent continuer à vivre selon les lois et les règles transmises par Moïse. À Jérusalem, il y a le temple majestueux qui va exercer son rôle central. Donc à Jérusalem, à cette époque, il y a des sacrifices d'animaux. Il y a des fêtes, des rites, des coutumes religieuses. On est vraiment dans une cité qui, bien sûr, est influencée par la culture grecque, par la culture romaine, mais on est dans un milieu, à Jérusalem, c'est une ville juive, et ce sont les Juifs qui exercent leur religion. Après la résurrection de Jésus, ce sont des Juifs, et beaucoup de Juifs, qui vont reconnaître que Jésus est le Messie. Et ça, c'est important quand on dit Jésus-Christ, en fait, ça veut dire Jésus le Messie. Pour eux, le Christ, le Messie, c'est l'accomplissement des promesses bibliques. Donc ça s'intègre dans le judaïsme. Il n'y a pas une rupture, comme on peut l'imaginer. Pour eux, non, c'est un prolongement. Par contre, c'est vrai qu'en Jésus-Christ, dans ce que le Christ apporte, il y a quelque chose de nouveau. Et les Juifs vont devoir faire une transition.
Donc c'est vrai que nous, maintenant, on a passé les années 2000, hein, on a tout un recul, on a toute une perspective différente. Quand on ouvre une Bible aujourd'hui, on y trouve les écrits de l'Ancien Testament qui précèdent la venue du Christ, puis on trouve aussi ceux du Nouveau Testament. Par contre, à l'époque, les Juifs qui sont devenus chrétiens, ils n'avaient pas du tout cette dimension nouvelle, ils devaient quelque part la découvrir.
C'est bien oui, ce que c'est vous vrai, êtes en et train je trouve dire. Que c'est très impressionnant, parce qu'ils doivent se poser la question, mais ceux qui viennent chrétiens, est-ce qu'ils doivent appliquer le judaïsme, se faire circoncire, puisque c'est une des règles, faire des sacrifices d'animaux pour l'obtention en quelque sorte des pardons, respecter les plus de 600 règles que les rabbins ont dénombrées, c'est toutes sortes de rites, de choses à faire. Et puis de l'autre côté, eh bien, alors dans l'autre sens, faut-il tout mettre à la poubelle, tout écarter ? Et c'est là où, avec une très grande clairvoyance, le livre des Hébreux va nous montrer l'interdépendance qu'il y a entre la venue de Jésus-Christ et les révélations qui ont été faites précédemment aux Juifs et même avant, qu'on trouve dans l'Ancien Testament.
Alors, elle se fait comment, cette articulation dans le livre des Hébreux ?
Alors, l'auteur des Hébreux commence par souligner, et ça c'est assez fondamental, c'est que le Christ, le Messie, n'est pas un simple serviteur ou un prophète de Dieu. Il cite « Il était déjà présent à l'origine de notre univers, avant même la création de notre univers ». C'est un peu mystérieux, et dans ce sens-là, on peut écouter un des premiers versets de ce livre, au chapitre 1, verset 3.
Ce verset qui dit, je le cite, « Le Fils, donc le Christ, est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. » Donc c'est vrai qu'avec une image comme ça, glorieuse, on est loin du petit Jésus dans la crèche.
Oui, et ça c'est un contraste absolument incroyable. C'est peut-être le plus grand. Il y a le contraste entre la lumière éclatante et le noir le plus obscur. Mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus grand. C'est que celui qui est au-dessus de la création vient s'offrir sur une croix pour porter la faute des hommes. Il y a quelque chose d'absolument fou dans cette venue de Jésus-Christ. Et cet événement central de l'histoire ne tombe pas comme ça d'un coup. Mais on peut voir à travers l'histoire, à travers ce qui s'est passé dans le peuple juif et même avant, que Dieu a préparé les temps et l'espace pour que cet événement puisse avoir lieu et qu'il puisse prendre son sens. Et c'est là où le peuple juif a un rôle très important parce qu'il était choisi pour apporter ce cadeau au monde. Et c'est cette vocation de porter le Messie, qui puisse avoir en quelque sorte cet écrin dans lequel il va venir, eh bien, c'est une vocation qui a nécessité toute une préparation spirituelle et historique au sein du peuple juif.
Alors Jacques Daniel, c'est quoi les éléments du judaïsme qui sont les plus décisifs pour la foi chrétienne ?
Alors, après l'Exode, on peut se rappeler que les Hébreux sont appelés à construire une tente que l'on appelle le tabernacle. Donc, le peuple juif sort de l'Égypte où il était esclave et Dieu lui demande de faire une tente qui était un peu un temple portatif, fait avec des toiles de peau, il y avait de l'or, il y avait différentes choses symboliques. Et ce tabernacle va en quelque sorte incarner la présence de Dieu au milieu de son peuple. En l'an 1000 avant Jésus-Christ, hein, on peut se rappeler, c'est l'époque de David, ensuite de Salomon, eh bien, ce tabernacle, qui était quand même assez fragile, va enfanter du temple de Jérusalem. On va retrouver les mêmes principes, mais bien sûr, là, ce ne sera plus une construction de toile, mais une construction avec des pierres. Ce sera vraiment un édifice très solide et majestueux, le temple de Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est que le tabernacle et le temple sont créés selon trois espaces qui sont séparés par des barrières. En quelque sorte, c'est comme si le tabernacle ou le temple nous disait, eh bien, il y a la douane ou le péage. Enfin, il y a des séparations et on doit passer ces barrières. Alors, il faut être juif pour passer la première. C'est impossible et c'est interdit, même à l'époque romaine, d'aller sur l'endroit du temple si on n'était pas juif. Il faut être sacrificateur, donc prêtre, pour pouvoir passer la deuxième barrière qui nous permet d'entrer dans le lieu saint. Et ensuite, il faut être le grand prêtre pour avoir le privilège d'entrer, mais une fois seulement dans une année, pour entrer dans le lieu ultime, qui est le Saint des Saints, qui est vraiment cet endroit qui était dans l'obscurité, qui était assez particulier, unique, et qu'on trouve dans le tabernacle ou dans le temple de Jérusalem.
C'est vraiment le parcours du combattant, là. Il y a vraiment des barrières, c'est pas facile. Est-ce que ça montre quelque part que l'être humain ne peut pas aller de lui-même dans la présence de Dieu, qu'il y a comme une sorte de chemin à faire ?
Oui, alors tout à fait. Et c'est cette révélation-là qui est très importante. L'homme n'a pas cet accès à Dieu. Et c'est peut-être même ce qu'on peut voir dans l'histoire biblique et même dans l'histoire symbolique du Jardin d'Éden, c'est que l'homme est comme séparé, il a comme perdu cet accès à Dieu. Et seul le grand prêtre pouvait traverser les trois barrières pour aller dans le lieu de la présence. Et dans le judaïsme, cette action avait lieu une fois par année, le jour du grand pardon, le Yom Kippour. Et ce prêtre, en plus, ce grand prêtre avait des vêtements particuliers puisque symboliquement, il portait sur ses épaules et sur sa poitrine des pierres précieuses qui représentaient son peuple. Ainsi, le jour du grand pardon, le grand prêtre emportait symboliquement les Hébreux, le peuple juif, dans la sainteté de Dieu. Ça montrait qu'il fallait que quelqu'un puisse faire ce chemin pour apporter ce peuple dans cet endroit fermé et que ce n'était pas du tout possible d'y aller par soi-même. Il fallait un intermédiaire. Alors, c'est là où c'est absolument fou, et pour moi, je suis toujours impressionné, bien que j'étudie ces choses, mais ça me frappe toujours. Lorsque Jésus est mort sur la croix, les évangiles nous disent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Cette toile, cette grande toile qui fermait l'accès au lieu très saint, cet endroit ultime, quand Jésus meurt à la croix, il y a quelque chose qui se passe. Dans le temple, il y a une énorme déchirure, et cette grosse toile épaisse se déchire. Pourquoi ? Eh bien, justement, et c'est ce que le livre des Hébreux va nous montrer, c'est que ce grand prêtre ultime, c'est Jésus, et que le jour où il meurt, eh bien, c'est lui qui traverse cette barrière. C'est vraiment l'accomplissement du jour du grand pardon. Et on peut lire à ce propos ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, verset 11.
Alors il est dit, Christ est venu comme souverain sacrificateur, prêtre, hein, des biens à venir, les biens éternels. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main des hommes. C'est en quelque sorte ce que vous venez d'expliquer, c'est l'œuvre du Christ qui s'imbrique dans cette loi du judaïsme.
Oui, tout à fait. Et c'est là où les détails, même les détails ont un sens. C'est comme si tout avait été anticipé. On peut presque dire que la venue du Christ, elle est un centre du temps, aussi bien du passé que du futur. Et le fait que le grand prêtre, on peut s'en rappeler, portait son peuple avec des pierres précieuses symboliques, eh bien, avec Jésus, c'est plus juste le peuple juif, mais c'est l'humanité entière qui est porté par Jésus. Et le pardon que Jésus apporte quand il est sur la croix et qu'il dit « pardonne-leur », ça ne concerne pas juste un peuple ou juste des gens qui ont été choisis pour une vocation, mais ça s'étend à tous les hommes. Et on peut lire à ce propos ce que l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 10, versets 19 et 20.
Alors je vais lire ces versets. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. »
Oui, alors moi, j'ai essayé de méditer, c'est quoi une route vivante? C'est presque un peu comme un tapis roulant, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une route, si vous vous placez sur cette route par la foi, eh bien, elle vous emmène dans cette présence de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et c'est là où c'est vraiment fabuleux, c'est qu'il y a cette vision qu'en se plaçant en Jésus-Christ, nous allons traverser ces barrières et nous avons accès à une dimension qu'on n'aurait jamais pu accéder autrement. Et c'est ça, la gratuité du christianisme, c'est que ce n'est pas à l'homme à faire des efforts pour s'approcher de Dieu, mais c'est à l'homme à se placer au bon endroit sur cette route pour être emmené automatiquement dans cette présence de Dieu. Et l'auteur nous indique que ce mouvement vise à nous conduire dans le repos de la présence de Dieu. Il y a une dimension, il va le dire, et c'est là où le Shabbat, qui est un des fondements du judaïsme, eh bien, est là encore un symbole précurseur. Le Shabbat n'est pas simplement un jour de congé, c'est aussi le symbole de cet état de repos que l'on peut vivre en n'étant plus esclave de la création, mais en étant connecté avec Dieu.
Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Jacques Daniel, ce serait quoi les derniers aspects qu'on pourrait relever de ce livre?
Alors, il y a beaucoup de conseils utiles dans ce livre, mais on pourrait conclure avec un des thèmes centraux que l'auteur développe dans le chapitre 11. Et ce thème, c'est le rôle essentiel de la foi. Et à ce propos-là, on peut écouter un des versets du chapitre 11.
Un verset qui dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Un petit peu mystérieux, hein ?
Voilà, c'est par la foi qu'on reconnaît qu'en quelque sorte l'univers, tout ce qui nous entoure, ne vient pas de la matière ou du hasard, comme certains le disent, mais que c'était construit sur des choses invisibles. Et les choses visibles sont construites sur des choses invisibles. Et c'est finalement ce que la science est en train de découvrir actuellement, déjà depuis plusieurs dizaines d'années, et qu'on met toujours plus en évidence avec des accélérateurs, etc. C'est-à-dire que les fondements de notre monde ne sont pas dans le visible, mais sont même encore beaucoup plus profondément inscrits en Dieu et viennent de Dieu. Et ça, c'est très important. L'homme peut vivre sans référence et sans connaissance de Dieu. Il peut être un peu comme un animal qui vit pour manger, boire et se reproduire ou avoir du plaisir. Ou alors il peut avoir la foi, c'est-à-dire qu'il peut être justement dans cette relation, et je pense que c'est la particularité de l'homme, c'est qu'il peut connaître Dieu. Comme c'était le cas pour Abraham, Moïse et une multitude d'hommes et de femmes, eh bien, le centre, c'est de vivre ce contact, cette relation avec ce Créateur. Alors, ce n'est pas des choses abstraites. Et les auditeurs qui nous écoutent, eh bien, sont invités à ce constat, c'est-à-dire à faire ce pas, ne pas rester enfermés dans leur petite vie matérialiste, mais la vocation qu'ils ont reçue de la part de leur Créateur, c'est qu'ils puissent connaître le Créateur et pour le rencontrer, eh bien, qu'ils puissent, et je les invite à se placer sur cette route vivante, et ça les entraînera dans cette présence de Dieu qui est la chose la plus extraordinaire, qui est même bien plus importante que notre univers et tout ce qu'il y a dedans.
Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rocha. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25 301 Pontarlier, Cedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt.